Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Malika Paquette.
Bonjour!
Les deux autres ne sont pas là aujourd'hui, alors on va faire l'émission moi et elle. Et nous sommes dans les studios de Radio Centre-Ville à Montréal. Notre thème aujourd'hui sera « Celui qui a beaucoup joui comprend mieux la liberté ». Ah, j'en entends déjà penser là, que ça va être une émission sur le sexe.
C'est peut-être, ça, c'est exactement
oui,
ça.
On va en parler un peu, bien sûr, mais pour moi, la jouissance n'est pas seulement liée à la sexualité. On peut jouir de soi-même, jouir du temps qui nous est imparti. Je pense que la jouissance, ça dépasse juste l'aspect génital. Mais quand même, la jouissance physique, la jouissance sexuelle est très importante dans ce thème. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Je vais amener ce sujet-là que oui, exactement, parce que le physique est l'aspect le plus révélateur à cause de nos sens qui font en sorte qu'on voit, on utilise nos yeux. On pense toujours aussi que nos conversations qu'on a, nos super conversations qu'on a ensemble, on passe toujours du premier degré au deuxième degré de la pensée. On a bien défini ça, notre vision des choses, nos opinions. Puis, moi, j'invite à commencer cette conversation-là sur le premier degré de la pensée, comme du physique. Pour moi, la jouissance, c'est pas seulement génital, comme tu dis, ou sexuel. Bien sûr que ça l'est, mais aussi les émotions qui, en fait, quand on a de la colère, on a ou la tristesse, on est un peu perdu, on a un mouton dans le plexus solaire ou dans la gorge, tu sais. Et là, vu qu'il se passe quelque chose, là, on est tous soulagés. Là, c'est une jouissance, l'intérieur, tu sais. C'est quelque chose qui fait en sorte qu'on un événement externe qui nous crée cette jouissance-là, une genre de satisfaction profonde et au sommet de tout, à l'apogée, on peut dire. Ça se dit-tu, ouais?
Oui, oui.
Pour moi, c'est une des plus grandes facilités que j'ai à reconnaître la jouissance, mais pas la plus importante. Donc, pour toi, la jouissance physique du premier degré, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ben, c'est sûr que l'aspect de la sexualité est très important. Hein. Moi, on a souvent entendu parler de ce petit dicton « Dis-moi ce que tu penses. » dis-moi ce que tu manges. Je vais te dire ce que tu penses. » Moi, j'ai souvent tendance à dire « Dis-moi, parle-moi de ta sexualité, puis je vais te dire ta relation avec le monde. » Je pense que la sexualité, la manière que tu fais l'amour ou si tu la fais pas, tu sais, ça dit beaucoup. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir de femme ou d'homme, qui n'arrive pas à faire l'amour, je pense qu'il y a quelqu'un qui a de la misère à communiquer, qui est pas connecté avec l'autre sexe ou... Qui manque, à mon avis, de connexion. Et moi, j'aime les femmes. Et puis, j'ai rarement eu des moments dans ma vie où il n'y en a pas eu dans ma vie. Alors, je sais que ma relation est bonne en général avec la femme. Et j'ai une sexualité pleine, épanouie. Et quand on fait l'amour, quand on jouit, justement, il y a un moment de liberté. Mm-hmm. C'est ça, c'est un peu ça le thème d'aujourd'hui. C'est ce moment-là. Est-ce qu'on peut agrandir ce moment de liberté? Mm-hmm. Tu sais, quand tu jouis, par exemple, tu ne penses plus à tes problèmes. Mm-hmm. Tu es dans cet état.
Puis qui dit liberté dit ouverture aussi, hein? Parce que c'est la clé numéro un, je crois, dans avoir des bonnes relations, la communication. Mais l'ouverture aussi d'esprit, de son être, de ses angoisses qu'on pourrait avoir aussi intérieures. Tout ça, on les laisse aller. On les laisse autour de soi, dans l'air, qui ne nous appartiennent pas. Parce que tout le monde a ses petites peurs, ses petites lacunes sur certaines choses. On n'est pas tous full potential all the time, tu sais, nous et tes jours. Mais je crois que l'important, c'est de se centrer, d'être en soi, quotidiennement. Puis si, si on se perd, ben on se ramène en soi. Puis c'est moi, c'est pour ça que c'est comme si deux chemins parallèles diraient que tu peux, autant que tu veux, tu peux être toi-même. Mais si tu fais ces deux choses parallèles, exemple, qui est la confiance en soi et l'amour en soi, l'harmonie plutôt. Tu vas arriver à pouvoir communiquer avec toi-même ainsi qu'avec les autres. Mais si c'est comme je disais, si ces deux choses-là sont parallèles en perpétualité, tu pourras jamais trouver ce centre, toi-même, parce que l'important, c'est de les rapprocher, que ça fasse un comme un courant, un gros cordon.
Et je crois que les gens aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à jouir, vraiment, là, parce que ben,
Ben oui.
d'une part l'Église, l'État, depuis au moins 2500 ans, nous a appris que la sexualité, c'est sale, qu'il faut attendre d'être marié pour faire des enfants. Il y a pas de plaisir dans la. Dans, ils ont tout enlevé le plaisir dans ça. C'est devenu comme un acte mécanique. Et le plaisir, justement, parce que ça rendait libre. Tout ce qui nous entoure, tout l'État, l'Église, tous ces gens n'ont pas à cœur notre liberté. Ils veulent au contraire qu'on reste des esclaves. Tu sais, ce thème-là, celui qui a beaucoup joué comprend mieux la liberté. Pour moi, ça s'oppose justement à ce que l'Église enseigne, qui va dire celui qui a beaucoup souffert a une âme plus épanouie car la souffrance le rapproche de Dieu. C'est ça que l'Église enseigne. La souffrance, c'est ce que Jésus a démontré dans. C'est l'histoire. En tout cas, disons, c'est l'histoire qu'on nous raconte à propos de Jésus, parce que Jésus était peut-être un jouisseur, justement.
Moi, je crois que oui, en effet. Puis on a tellement tourné ça. Puis.
C'est plutôt l'Église qui a tourné ça à son avantage.
Et. Puis, c'est encore. Tu parlais du truc. Des relations sexuelles avec. C'est rendu, tu sais, au travers de l'Église et ses influences sur la communauté ou les personnes qui veulent suivre cette religion. Qu'en effet, le départ, c'est faire l'amour, c'est sale, c'est pour se reproduire seulement. Puis d'autres religions aussi l'incorporent, là. Mais aussi, c'est des messages encore plus puissants que ce modèle de base qui, pour moi, qui est simple, qui est sale, tu sais. Ça peut être aussi des pensées, comment on doit faire l'amour. Si on veut faire l'amour aussi avec une liberté, une sexualité ouverte, les gens ont oublié la base de ce brainwash, cette sorte d'influence que, pour moi, elle est nuisible à l'épanouissement de l'être. Ils ont oublié ça parce que ils vont dire, ben non, on vit en 2014, on peut. Tu sais, c'est tout le monde. Vu que les homosexuels, maintenant, ils sont. C'est bizarre, ça, j'ai déjà entendu ça. Qui sont acceptés, puis on comparait à 1970, 80. Ben tout est correct maintenant, et tout ça, tout le monde est égal. Mais que combien de personnes que j'ai communiqué avec, et même moi, je me surprends parfois, quand je ne pèse pas mes mots, quand je suis pas. Toujours dans le moment présent, je vais avoir, ou ils vont avoir, ces personnes-là que j'ai rencontrées, pas des préjugés, mais des jugements intérieurs que c'est encore comme, oh, ils l'ont pris de l'externe. C'est pas d'eux-mêmes qui ont pris ça. Ça, c'est intéressant.
Alors que la sexualité devrait au contraire être un moyen de nous rapprocher. Si on remonte avant le christianisme et le bouddhisme, on remarque que la sexualité était là. Avant le christianisme, c'était le paganisme. La sexualité sacrée était fondamentale. L'homme et la femme permettaient, l'acte sexuel permettait d'atteindre l'absolu. Et c'est en ce sens qu'on s'en servait dans les cérémonies. Et aussi, si tu vas dans l'hindouisme, tu vas presque toujours rencontrer les dieux avec les déesses. Krishna avec Radha. Et ils ont tous une partie féminine où ils sont androgynes.
C'est ça,
Et tu vois des images de Dieu en train de faire l'amour sur des temples. Mais ça s'est perdu par le bouddhisme, qui était une renonciation au monde, qui était une renonciation au plaisir du monde pour se consacrer à quelque chose de plus. Et moi, je ne vais pas dans cette idée. Je crois que c'est dans tout qu'on trouve l'absolu. Moi, je le trouve dans la sexualité, je le trouve dans mon œuvre, dans ce que je fais. Par exemple, à l'émission de radio, pour moi, l'absolu, c'est justement de jouir de ce que je fais, d'aimer ce que je fais au point d'en jouir. Ces temps-ci, je suis dans une veine d'inspiration incroyable. Je fais beaucoup de sites Internet. J'ai découvert comment faire des sites Internet, ce qu'on dit adaptatifs, c'est-à-dire qui s'adaptent à tous les styles de cellulaire, iPad. Puis j'ai des moments de jouissance incroyables. Je jouis. Je suis en train de faire le site et c'est une jouissance qui me rappelle beaucoup l'époque où je faisais des drogues psychédéliques, où j'atteignais beaucoup l'extase, qui était encore là. L'extase, c'est une jouissance spirituelle. Et ça me rappelle cette époque, ce moment où j'étais connecté avec la lumière, hein, la lumière en moi.
Oui. Puis j'ai bien aimé le. Je souligne ici, s'il y aurait des sous-titres en parlant ici, on se verrait, là. Je souligne ce que tu m'as dit, si je recule ta discussion un peu. Le côté féminin et masculin de chacun, vu que on parlait des messages de la religion qui nous a. Que les personnes ont voulu suivre par peur, ils ont oublié que. Oh, l'homme doit être comme ça et la femme doit être comme ça. Mais chaque personne a un côté féminin et masculin. Je le redis, chaque personne a un côté féminin et masculin. Et ils doivent, pas ils doivent, c'est mal dit, mais je vous invite à explorer ces deux côtés-là parce que si vous ne les avez pas trouvés là, c'est une complétation à votre être. C'est ce qui est dans les deux bords de la balance.
Exact, c'est le yin-yang, à mon avis, c'est la balance. On doit bien sûr affirmer sa partie dominante. Je suis un homme, mais je suis très féminin aussi dans ma vie. Je mets beaucoup d'inspiration dans ce que je fais, de la création, etc. Donc moi, je me sens très balancé. On va prendre une pause musicale avec une chanson de Patrick Coutin qui s'appelle « Fais-moi jouir ». Puis on revient après la pause avec ce thème. « Celui qui a beaucoup joui comprend mieux la liberté ». De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Celui qui a beaucoup joui comprend mieux la liberté ». Et justement, Franck vient d'arriver, alors il va continuer l'émission avec nous, notre grand jouisseur de la France.
Salut. Surtout pour le bon vent.
Alors, je trouve que les gens ont beaucoup oublié aujourd'hui que les hommes primitifs étaient toujours en congé. Ils n'avaient pas besoin de travailler avant. Et même encore aujourd'hui, si on regarde les sociétés qu'on dit primitives, qui sont en général beaucoup plus heureuses que nous, beaucoup plus relaxes, ils vont pas travailler plus que 2 heures par jour. Ces 2 heures-là, c'est pour ramasser de la nourriture qu'ils ramènent. Le reste du temps, ils ont des loisirs, ils font l'amour, ils s'amusent. Et nous, aujourd'hui, on se glorifie d'être une société technologiquement évoluée, mais on n'a plus de temps pour jouir. Hein, tous ces gens qui travaillent toute la journée, ils arrivent chez eux le soir fatigués, ils n'ont même pas de temps pour leur femme. Je trouve ça pathétique aujourd'hui. C'est dégénéré. Je trouve que la sexualité en est un point,
pire point. On est technologiquement avancé, mais on est humainement et socialement complètement sous-évolué. Et ça, c'est vraiment caractéristique, parce qu'on a mis au premier plan le matériel, la glorification du matériel. On nous a bourré le crâne, justement, avec le travail comme valeur essentielle, alors que, comme on l'a évoqué dans différentes émissions, ce n'est pas forcément ceux qui en ont le plus qui bossent le plus, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et donc, de ce fait, ben oui... C'est bien que tu aies mentionné ces sociétés dites ou soi-disant primitives, parce que tu te rends compte que d'une part, alors après il faudrait peut-être les nommer précisément, mais bon, en tout cas, celles que j'ai en tête, là, je ne saurais pas dire précisément le nom qu'elles portent, mais de celles que je connais, que j'ai pu voir au travers des livres ou sur Internet et tout ça, on se rend compte que ces sociétés-là, enfin en tout cas que ces groupes, d'une part, ont une relation avec la nature totalement privilégiée, avec la nature environnante, mais ils font pas de distinction entre la nature environnante et puis eux ce qu'ils sont. Et ils ont un respect immense, immodéré, envers la nature, et ils considèrent que c'est un cadeau qu'il leur est fait de pouvoir bénéficier de la vie, ce à quoi on est à des années-lumière complètement. Et la relation qu'ils ont avec leur corps, avec l'autre, est magnifique dans le sens où c'est glorifié. Enfin, ce qu'ils sont, c'est glorifié, pas au sens, encore une fois, de la starification, comme nous on le voit, c'est-à-dire avec slash matérialisation, mais au contraire, quelque chose de très sain. Et puis, je ne sais pas si ça a été évoqué dans d'autres émissions, mais c'est des tribus qui peuvent parler, par exemple, de leurs rêves, qui vont consulter les rêves pour prendre des décisions. Donc, ils sont vraiment aussi dans la réceptivité par rapport au plan subtil, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qu'on a perdu. Et enfin, pour finir mon intervention, là, c'est des sociétés, ou des groupes, ou des civilisations, ou... dans lequel tu n'as très rarement de crimes, d'agressions sexuelles, de pédophilie. C'est des trucs qui n'existent absolument pas. C'est impensable pour eux d'avoir de la police ou quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que si eux... Il y a un reportage comme ça où justement ils montrent... C'est des journalistes qui sont allés dans une tribu. Ça doit se trouver sur la net.
Il y en a un en particulier, je pense, c'est les Zoé.
C'est les Zoé. Je crois que c'est ça.
C'est une tribu qui existe encore, ils vivent nus, ne travaillent pas justement.
Exactement, et puis ils sont en osmose complète avec eux-mêmes, avec leurs enfants, avec la vie. Quoi.
Et je pense qu'ils comprennent le sens de la liberté, et puis moi j'ai rencontré peu de gens qui le comprenaient. Moi je le comprends bien, parce que je me suis donné 10 ans sans travailler sur l'aide sociale pour être libre. J'ai été 24 heures sur 24 libre de moi-même. Et j'ai beaucoup de discipline, donc je ne me suis pas perdu. Moi, dans ces 10 ans, j'ai été très efficace. J'ai écrit des livres, j'ai fait de la bande dessinée, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la musique. Je me suis éclaté. J'ai joui beaucoup. J'avais des femmes dans ma vie à ce moment-là aussi. Donc, c'est un grand moment de ma vie, moi. Et je comprends la liberté maintenant. Et je comprends ce que ça veut dire. Alors, quand on jouit beaucoup, on comprend la liberté.
Mais c'est là que je m'aime vraiment beaucoup, moi, parce que moi, depuis... j'ai un parcours de chemin semblable à d'autres Québécois, mais avec la religion catholique et les pensées comme ça. Mais moi, j'ai toujours... En plus, ma famille était très différente. Elle savait qu'il ne fallait pas faire certaines choses, mais ils faisaient, tu sais, c'était mal. Mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi c'était mal pour eux. Donc, j'ai été élevée dans une certaine ambiance très relaxe, libertine, non...
Libertine?
Libertine, mm-hmm. Oui. Bon. J'étais, oui, vraiment, beaucoup. Et je m'en souviens que les premières fois que, par exemple, on commence l'école, on commence le travail, on fait certaines choses, puis c'est une des premières fois que je me suis dit, ça fait aucun sens parce que, bon, je travaillais pour, mettons, un cours qui était très, très difficile pour moi, puis je bossais très fort, puis il y a une journée que je ne faisais pas mon travail, tu sais, que je devais le faire, j'avais fait un plan, mais il y avait une like an urge, une urgence en moi de qui me saisissait, la tête, l'âme, les émotions. Il me disait, fais autre chose, juste change ton idée, juste fais ce que tu aimes, jouis de ta personne. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours fait ça. Fait que moi, des fois, oui, j'ai des moments que je me dis, bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais dû pas le rester dans le bain vraiment longtemps dans ma paresse, là, ou quelque chose comme ça, dans ma jouissance profonde, revenir à la réalité. Mais c'est pour ça que j'aime bien beaucoup, parce que j'ai jamais épargné ces moments de liberté, malgré qu'on me disait non, tu sais.
Mais le gros problème, justement, je pense que tu mets le doigt dessus aujourd'hui, c'est qu'il faut mériter la jouissance. Hein, ceux qui prennent des vacances, ils doivent mériter leurs vacances. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien sans rien. Et c'est ça le gros problème. La jouissance, ça, c'est gratuit. Ça ne coûte rien faire l'amour. Ça ne coûte rien avoir du plaisir dans ce que tu aimes.
Ça dépend t'es où, puis ça dépend t'es qui.
Oui, ouais, ça peut m'amener à un point justement du problème de la dégénérescence de la société capitaliste aujourd'hui qui fait que la société fait que, bon, tu as le cybersexe, mais pour avoir du cybersexe, ben, ça prend un ordinateur. Pour avoir un ordinateur, ben, ça prend de l'argent. Et puis, tu as la prostitution, mais ça, c'est il faut payer aussi. Donc, tu as... Aujourd'hui, la sexualité, quand on dit sexe, on peut mettre un signe de dollar dans le S du sexe. Mais ça n'a aucun rapport avec le sexe, l'argent.
D'accord. Quand tu passes, si vous remarquez, quand vous passez devant un bureau de change, il y a les quatre logos, euro, dollar et tout ça. Et quand tu regardes, tu as l'impression que c'est marqué, ça fait sexy. Vous faites attention. La façon dont c'est écrit, c'est... Et je trouve que l'association justement avec l'argent et puis le sexe, comme tu viens, des fois il y a des petits symboles comme ça qui sont complètement involontaires, parce que c'est complètement involontaire, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la marchandisation du sexe, du plaisir et tout ce qui est associé, c'est un merveilleux moyen de captivité humaine.
C'est un fléau.
C'est un fléau.
Quand on parle de sexualité, moi je suis quelqu'un qui ne se protège pas. Je crois que tout être qui se protège confirme qu'il se sent menacé. Dès que je parle de ça avec quelqu'un, ou dès qu'on parle de sexualité, le sujet des maladies transmissibles sexuellement arrive tout de suite. Et les gens vont dire, oui, mais si la personne a des maladies, oui, mais si elle n'en a pas, pourquoi te protéger? Pourquoi les gens prennent toujours l'aspect négatif? Mm-hmm. Puis c'est pourquoi 50% des gens dans notre société ont des MTS. Mm-hmm. C'est rendu un fléau.
L'autre chose que tu oublies peut-être de mentionner, c'est que si tu ne mets pas de préservatif, c'est parce que tu as une grande confiance en l'autre. Et sans cette grande confiance en l'autre, et confiance en toi aussi, c'est ce qui te permet d'enlever le préservatif. Après, pour faire le pas, pour avoir cette confiance en l'autre, c'est quand même tout un... c'est un saut quantique, là, dans la façon dont on envisage...
C'est surtout la confiance en son être. Parce que l'autre se fait en généralement pas confiance. Mais si moi, j'ai confiance en mes intuitions, en mon sentiment, tu as un sentiment quand tu rencontres quelqu'un, tu as toujours un sentiment. Tu te sens pris ou tu te sens mal, tu te sens bien, tu te sens en confiance. C'est ce sentiment qui va toujours te dire, cette personne-là, elle a quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi, sa vibration ne fonctionne pas. Et ceux qui vont se protéger, justement, pour moi, c'est des gens qui se mettent comme un sac sur la tête, qui disent, bon... Je ressens quelque chose de très négatif envers cette personne, mais je vais mettre un condom, je vais quand même la baiser. Mais pour moi, on en a parlé, je pense, dans les dernières émissions, c'est que les maladies, pour moi, sont spirituelles. Les maladies se transmettent spirituellement. Donc, même si tu mets un petit morceau de plastique, pour moi, ça ne va pas te guérir. C'est quelque chose qui est très, très profond et ça va dans le même sens que le Reiki, les médecines comme la Ayurveda. Tous les gens qui pensent le contraire, c'est des gens qui sont qui croient la science aujourd'hui. La science, c'est plutôt comme quelqu'un qui va mettre un plaster sur un bobo. Le plaster, ça arrive à la fin. Mais si on avait des médecines préventives, ou si on avait cette capacité de juger, et là, on revient avec l'Église qui nous dit de ne pas juger les autres. Alors, on est entouré de gens qui ne savent pas juger parce qu'on nous a enseigné à ne pas juger les autres. Mais moi, je juge. Et quand j'encontre une femme, je la juge très, très rapidement. Et je n'ai jamais eu de problème.
tu la juges ou tu fais confiance à ton intuition pour qu'elle te donne l'information sans avoir à la juger, mais en ayant les informations suffisantes.
Je juge. Porter un jugement, c'est décider pour toi-même qu'est-ce que l'autre est. Tu n'as pas besoin de son avis, tu n'as pas besoin de ce qu'elle pense. C'est, je juge que cette personne est bonne pour moi. Avoir du jugement, pour moi, c'est une qualité, mais c'est devenu péjoratif.
Oui,
oui, parce qu'un jugement est associé au fait de, comme un espèce de couperet, ah ben l'autre, il est comme ça, là, puis pouf.
Oui.
Ça, c'est un préjugé.
Gardez un préjugé. L'idée, là. On va passer à une pause musicale avec la balade des gens heureux de Gérard Lenormand. Et bon, ben pour les auditeurs de Radio Centre-Ville, c'est tout. Mais on vous invite à venir sur notre site internet, proposurlebonheur.com, pour écouter la suite de l'émission qui dure une heure. Ou pour ceux qui sont sur Radio H2O, ben, continuez après la pause. L'émission va continuer.
Yes!
Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut, tu viens de chanter la balade des gens heureux.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Celui qui a beaucoup joui comprend mieux la liberté ». Moi, pour moi, la liberté, c'est plutôt c'est un acte de se laisser être. Ça n'a rien à voir avec se laisser aller. Et c'est aussi laisser être les autres. Parce que d'abord, en se laissant être, en étant libre soi-même, on peut plus laisser les autres libres. Si on l'applique en amour, c'est très facile pour moi de laisser les gens que j'aime libres parce que je ne suis pas dépendant. Et quand on est dépendant, je pense qu'on ne jouit pas vraiment des autres parce qu'on a toujours peur de les perdre. Tu sais, quand quelqu'un qui a peur de manquer de quelque chose, il va s'empiffrer, comme on pourrait dire. Au lieu de déguster la présence de cette personne ou déguster son café, il va le prendre rapidement, tu sais, sans le goûter. Ça, c'est le problème, je crois, de la société aujourd'hui, de la rapidité, en tout cas en Amérique du Nord. Hein? Le capitalisme amène cette idée qu'on parle de la jouissance beaucoup, mais c'est une fausse jouissance à mon avis. Et j'en viens même à me demander, est-ce que les gens n'auraient pas oublié comment jouir aujourd'hui?
Ben, ça fait partie des choses que l'on devrait apprendre à l'école.
En effet.
sérieusement, parce que effectivement, bah, on est plus programmé à être des robots destinés à faire des tâches, et donc du coup, la jouissance, le plaisir, le fait d'apprécier, de prendre un moment, ne serait-ce que de prendre un moment pour ne rien faire, rien que d'apprécier ça. Plus tout ce que tu as évoqué, tout ce qui a été évoqué là, c'est-à-dire le plaisir d'être avec le plaisir d'être avec soi, le plaisir d'être avec l'autre, le plaisir de partager un bon moment. Après, il y a toute une gamme qui va de la nourriture physique, la nourriture spirituelle, sexuelle. Enfin, la gamme est relativement vaste et on devrait enseigner à la base de reconnaître les bons moments, de les apprécier.
C'est tellement ça, parce que
c'est ça, oui.
Dans l'Amérique du Nord, ça me fait penser à le temps, c'est de l'argent.
Mais pas qu'en Amérique du Nord, en Europe, dans tous les pays occidentalisés.
Oui, c'est ça. On parlait de l'Amérique du Nord, ça je voulais dire tantôt. Et il parlait ça de Nicolas, ici, qui ont fait les choses rapidement, et même étudier, c'est rapide, travailler, il faut que même les tâches soient rapides. On ne prend pas le temps d'éguster. Moi, pour moi, c'est même correctement. tout ça, c'est parce qu'il se crée un manque, puis tout ça, c'est parce qu'à la base, ça découle de le temps, c'est de l'argent. Le temps ne doit pas être gaspillé, il doit être productif. Pour les sociétés, pour la société, pour les personnes qui veulent de l'argent.
C'est une jouissance superficielle, je trouve. Ouais. Les gens,
par procuration.
Oui, puis les gens, la quantité de téléphones cellulaires que la personne va passer en 2 ans, les ordinateurs, ça change très, très rapidement. Tout va tellement vite. Alors, comment est-ce possible de comprendre la permanence? Pour moi, le bonheur fait référence directe à la liberté et à la permanence.
Et comment tu peux te connecter par rapport à ça, à la jouissance? Au plaisir.
Exact. Pour moi, la jouissance, entre autres, c'est ces petits détails qui reviennent dans ma vie. J'aime ces petites habitudes, mon café, ma compagne, les discussions que j'ai avec, l'émission de radio. C'est des petites choses qui reviennent. Et moi, j'apprécie ces choses-là qui sont une permanence dans ma vie. Je sais que la semaine prochaine, on va se revoir, la semaine d'après, on va toujours reparler de ces choses-là. Et j'en jouis par à l'avance aussi. Tu sais, je sais que je vais avoir du plaisir, mon cours de salsa. Tu sais. Et j'ai l'impression que beaucoup de jeunes n'apprécient pas ces détails-là. C'est pour ça qu'ils ne sont pas heureux. Ils devraient regarder autour d'eux puis ils se rendraient compte qu'ils ont plein de raisons d'être heureux, plein de raisons d'apprécier les choses autour d'eux. Et s'ils ne les ont pas, c'est peut-être qu'ils ont oublié de les mettre autour d'eux. Pascal, dans une autre émission, parlait qu'autour d'elle, il y avait des gens qui ne fonctionnaient pas avec elle. Mais avec le temps, elle devrait mettre autour d'elle des gens qui fonctionnent pour enlever ce sentiment de ne pas être au bon endroit. Et dans les relations amoureuses, en sexualité, c'est encore plus important. Et c'est là que moi je dis, si vous faites l'amour, ne vous protégez pas. Si vous faites pas confiance à la personne, mais faites pas l'amour avec elle.
C'est aussi simple que ça.
Exact. Moi, je ne fais plus l'amour avec des femmes auxquelles je n'ai pas confiance, que je ne sens pas. Et quand je le fais, je le fais pour de vrai. Parce que l'acte de faire l'amour, c'est un acte sacré. Tantôt, on parlait de revenir avant le christianisme et le bouddhisme. Et la sexualité est sacrée pour moi. Si tu mets un condom, tu enlèves le sacré. Tu dis « je te fais pas confiance ». Puis je vais baiser avec toi pareil. Puis ça va être juste baiser. Alors que si t'aimes quelqu'un, tu dis OK, si t'es malade, je vais l'attraper s'il le faut pour être avec toi, pour être en communion avec toi. Et c'est ça pour moi, la jouissance totale, c'est la communion avec soi-même et avec l'autre avec qui on est en train de faire l'amour. Vous savez, quand on jouit, il y a un moment d'absolu. Et c'est ça que le paganisme cherchait exactement ça. Il avait compris que la femme, par sa capacité de jouir longtemps, pouvait permettre à l'homme d'entrer dans l'état d'illumination. Et pour eux, la sexualité était liée à l'illumination. Aujourd'hui, c'est perdu, ça.
C'est oui.
Il y a tellement de personnes que j'ai rencontrées que c'est vrai, ils sont pas... Et heureusement, j'ai appris d'autres personnes qui m'ont montré à même toucher les gens, à même les regarder, à prendre le temps. Et ces choses qui sont tellement simples sont tellement complexes à la fois parce que l'environnement, il est complexe. Il veut te perdre dans la vague, tu sais. Et c'est pour ça que ça revient à dire, c'est important de se recentrer si nous sommes perdus, on a encore une instabilité au centre de notre être, de faire ce travail-là. Puis à un moment donné, ça va devenir une constance, ça va être tout le temps comme ça. Et heureusement, il y a des gens qui... demandez-les, hein, si vous êtes entouré de gens qui ne sont pas... qui portent tous des préservatifs. Moi, je me dis que les gens doivent se tasser. De toute façon, faire du ménage dans son entourage, c'est important. Et de s'écouter de plus en plus, toujours jusqu'à temps qu'on s'écoute tout le temps. Comme Nicolas, qui, lui, qui est au summum de sa personne, qui est lui, tu sais. Que moi, qui est au summum de ma personne, qui redescend en bas, qui remonte en haut, qui redescend en bas. Que Franck, qui est comme une sinuosité, tu sais, c'est ça. C'est important de tout simplement s'entourer parce que grâce à vous, à la radio, ça fait du bien parler, ça fait du bien communiquer. Mais le plus important, c'est que ça me fait du bien à moi, tu sais. Ça fait du bien de me recentrer aussi, puis de enfin élaborer mes pensées, prendre le temps. C'est ça qu'on maintenant on fait une heure.
Mais c'est un réel défi hein, de ne pas se protéger parce que personne, les gens, tout le monde se protège, premièrement. Mais essayez-le. La prochaine fois que vous faites l'amour avec quelqu'un, au lieu de le faire sur le cruise control, tu dis, oh, j'ai un condom, je peux le faire avec elle n'importe quand. Vous allez voir, il y a comme un sixième sens qui va... Oui. C'est comme un signal d'alarme. Des fois, j'ai vraiment peur. Ça m'est arrivé d'avoir très, très peur. Je ne savais pas si la femme était propre ou pas à faire l'amour avec moi, mais je me disais, OK, mon être me dit, OK, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème. OK, vas-y. Puis j'avais aucune preuve, parce que c'est un peu de mauvais goût de demander à l'autre s'il y a une maladie. Tu sais. Il faut que tu... Faut que tu
ça
le sentes.
Un peu le truc, là.
Et puis,
ouais, parce que de toute façon, est-ce que cette personne... Si tu lui demandes, ça veut dire que... T'as pas de confiance entièrement, puis elle peut te mentir aussi, je veux dire. C'est ouais. Déjà pas... déjà que si elle est pas propre, c'est pas propre déjà la relation, tu sais.
Ouais. Ouais, vas-y.
Il est essentiel de replacer dans la discussion, dans le contexte, cette notion de confiance à soi par rapport à son intuition, puis confiance aussi par ricochet à l'autre. Qu'on soit bien d'accord, l'idée n'est pas de dire aux jeunes ne mettez pas de préservatif. Ça, faut bien le préciser, ça. C'est juste de dire faites en sorte d'être dans une relation, et c'est un défi pour chaque humain, d'être dans une relation de confiance avec vous-même et avec l'autre tel, de ne pas avoir à utiliser de préservatif. Et pour moi, j'avoue, là, c'est franchement un défi. C'est vraiment un défi colossal, mais qui mérite d'être relevé parce que. Au bout du bout, si tu te, entre guillemets, si tu te protèges, donc si tu veux dire, ah bah, de toute façon, c'est pas grave, je peux y aller parce que j'ai un préservatif, ce que moi j'ai utilisé très très régulièrement. Mais par contre, avec ça, donc ça te donne comme un espèce de sécurité. Donc du coup, tu en oublies la qualité de la relation que tu vas avoir avec l'autre parce que tu dis, ah bah, de toute façon, voilà, et puis c'est pas grave, arrivera ce qui arrivera, de toute façon, moi je me suis protégé, quoi.
Mais c'est une sécurité qui est très fausse, hein.
Et c'est une protection illusoire parce que du coup, bah, t'es plus dans la relation de consommation que dans la relation de confiance et de connexion. C'est la relation de consommation versus la relation de connexion. Connexion, encore une fois, avec soi et une connexion avec l'autre. Et aujourd'hui, là, dans notre société telle qu'elle est conçue, bâtie et appréhendée par chacun, chacune, c'est un défi colossal. Hein.
Mais par exemple, c'est un thème qui peut monter plus profond quand on dit ne pas se protéger, par exemple, ne pas avoir d'assurance. Combien d'argent les gens vont mettre dans les assurances au lieu de prendre des vacances et se faire confiance que si, par exemple, il arrive un problème, l'argent va venir de quelque part? Et c'est ça que je veux dire aussi. C'est quelqu'un qui se protège, il a peur. Il se met en mode protection et il ne jouit pas vraiment parce qu'il fait pas confiance. Il ne se fait pas confiance.
Ouais, mais d'un même coup, si je peux avoir une pensée aussi que je suis protégée aussi quelque part, on ne parle pas de préservatif ici, là, mais je veux dire être assurée ou une protection aussi spirituelle, ça peut amener aussi à une plus grande jouissance parce que des fois, il arrive certaines choses que, par exemple, moi, j'ai... ça m'est arrivé il y a un certain moment où que il est arrivé ça, puis au moins j'avais ce truc. Mais aussi, c'est peut-être vrai parce que tu me dis que Si on se fait confiance à soi-même, c'est comme en même temps se donner cette bulle-là de protection ou cette c'est plus une protection contre le monde externe, mais c'est genre, ça sort de toi-même. C'est une boule qui est comme tellement puissante dans l'être que tu es que l'entourage, ils vont juste.
Et c'est ça, au début, avant. Tu parlais de l'ouverture. Pour moi, c'est ça la vraie ouverture. C'est une ouverture qui est absolue. La vraie confiance, la vraie liberté dans l'ouverture. Moi, je fais confiance. Quand une femme vient vers moi, je lui fais confiance. Si elle me montre que je devrais pas, alors je vais lui enlever ma confiance. Mais de prime abord, je vais faire confiance. Mais on va faire une pause musicale et avec une parodie de Francis Gabrel qui s'appelle « Je veux la faire jouir, je veux la faire jouir ». C'est une drôle de chanson. Alors, on revient après la pause avec ce thème. « Celui qui a beaucoup joui comprend mieux la liberté ».
Je baisais bien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis comme un gamin qui connaît rien de la vie. Je veux la faire jouir. Je vais me relire tout le Kama Sutra. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses draps pour m'y accueillir. Pour m'y accueillir, je veux la faire jouir. On ne compte plus le chiffre des garçons du quartier qu'elle a mis dans son lit, ni des capotes usées qu'ils ont dû remplir. Elle va donner son cul et va rouler des pelles à tous les pochetrons à chaque fois qu'elle ne peut pas dormir, ne peut pas dormir, je veux la faire jouir. Elle a dû se faire tous les pervers pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû se faire tous les pervers de Paris et de province aussi. Elle vit de son mieux sa vie libertine, elle hante le milieu des orgies clandestines, je veux la faire jouir. Elle se lasse des amants qui peuvent plus la combler, elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de me retenir, je veux la faire jouir. Pour que le cul la botte, après tous ces ébats, j'ai dû appeler des potes pour qu'on la prenne à trois, je veux la faire jouir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas bouger, je la laisse mouvoir, je dois juste essayer de me contenir, je veux la faire jouir. Elle a dû se faire tous les pervers pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû se faire tous les pervers de Paris et de province aussi. Je baisais bien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis comme un gamin qui connaît rien de la vie, je veux la faire jouir. Je vais me relire tout le Kama Sutra, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses draps pour m'y accueillir, je veux la faire jouir. Je veux la faire jouir.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Celui qui a beaucoup joui comprend mieux la liberté ». Moi, je ne suis pas d'un naturel jaloux, sauf que je suis jaloux d'une chose, c'est du sexe de la femme. Quand je fais l'amour avec une femme, je suis en général très jaloux de sa capacité de jouir pendant plusieurs minutes, parfois même une heure. Et c'est incroyable parce que nous, l'homme, c'est « Ok, une fraction de seconde, c'est fait ». Alors que la femme, elle a cette capacité. Et je trouve que ça, les moments où dans ma vie, moi, j'ai compris, c'est quand j'ai atteint l'extase. J'ai eu des moments d'extase qui ont duré parfois quelques minutes. Et là, j'ai compris ce que la femme peut ressentir. Et oui, je suis jaloux de la femme. Et c'est pour ça, je crois, qu'on devrait remettre la femme au centre de tout. Et l'Église a tort. Le bouddhisme a tort d'enlever la sexualité parce que la femme est un professeur d'absolu.
Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que l'Église a compris il y a bien longtemps que la femme était extrêmement puissante.
Ouais.
Et c'est pour ça que ce qui était le meilleur moyen de castrer les mecs, et ben c'était tout simplement en enlevant le pouvoir à la femme. Et c'est pas plus compliqué que ça. Quelqu'un qui connaît les énergies, la manipulation, tout ce qui est subtil, il est évident qu'il a identifié, il y a certainement des millénaires et des millénaires, la puissance de la femme. Et donc, une fois que ça a été identifié, bah, il s'est dit, bah, attends, pour contrôler les mecs, là, ça va pas être compliqué. On va juste mettre la femme de seconde zone, là, on va lui faire le ménage, puis on va s'occuper du reste, et voilà, quoi. Enfin, bon, c'est grossier, hein, mais c'est complètement ça.
Et puis ça a fonctionné.
Et même ce qui me déçoit, c'est qu'à cette heure, il y a des, par exemple, par les lesbiennes qui vont même se comporter, les femmes, il y a certains types maintenant, tu sais, c'est à la mode, il y a certaines femmes qui sont des bouches, puis d'autres femmes plus féminines, lesbiennes. Mais moi, c'est des lesbiennes qui se comportent vraiment comme des hommes. C'est une attitude qu'ils ont. Oui, ils sont plus masculines, ils ont un tempérament plus direct, plus moins sinusoïdal, je sais pas. Avec moins de courbes, c'est plus en pic, je trouve. Mais pourtant, elles se donnent, surtout sur la rue Sainte-Catherine, dans le quartier gay. J'aimais aller dans le quartier gay parce que c'est là que la masse, avec les stéréotypes et la conformité, faisait place à la liberté, à l'imaginaire, à la créativité et à la souplesse de l'être, de la différence. Mais malheureusement, là, je m'en rends compte qu'avec toutes mes bonnes intentions, mais peut-être pas intentions, mais mes idées personnelles que j'avais, j'arrive. Et au contraire, j'ai encore plus peur que les hommes musclés dans les clubs qui attendent juste la fille de 5 pieds 4 qui ne savent même pas danser sur le dance floor. C'est comme la même chose. Fait qu'il y a comme un problème aussi d'identité que ça s'inflige vraiment à tout être. Hein. Et l'image est incombattable. Que tu dises à mille fois à la personne qui n'est pas prête de recevoir sa liberté, sa jouissance intérieure ainsi que physique. Parce que je pense que des femmes ou des hommes qui se portent, qui sont imagés ainsi, ne jouissent pas entièrement. Elles ne jouissent pas entièrement parce que c'est comme encore dans un degré de la consommation. Voilà.
Et puis ça prend aussi d'être en résonance avec l'autre et d'avoir cette connexion avec l'autre. La jouissance personnelle, elle ne peut se faire parce que tu entres en résonance avec l'autre qui fait écho à ta propre résonance, mais c'est indissociable. Bon, à moins, et là par contre, là, c'est ceux qui arrivent à maîtriser par le tantrisme ou par des j'allais dire des outils, mais c'est pas un outil, par un savoir,
une pratique
tantrique personnelle, ceux qui arrivent justement à complètement maîtriser ces aspects-là, mis à part ceux-là, pour une grande partie, en tout cas pour moi, ça passe quand même avec l'autre. Et s'il n'y a pas cette connexion avec l'autre, et encore, tu peux avoir la connexion, mais ça peut dépendre du moment. Enfin, je veux dire, c'est tellement des fois dans le registre du subtil, du magique et puis de l'insaisissable. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi la beauté de la chose. C'est ça qui donne toute la richesse au truc. Mais bon, après, de pouvoir le reproduire, l'apprivoiser et puis l'intégrer, l'approprier et pouvoir le refaire comme ça, sur commande ou presque, là, c'est encore une autre affaire.
Tantôt, tu parlais que ça serait très bien qu'à l'école, on nous enseigne. Mais non seulement à l'école, je crois que dans les familles aussi.
Il devrait
y avoir un enseignement de la sexualité. Si on enseigne à parler aux enfants, on devrait leur enseigner à faire l'amour. Et aujourd'hui, avec la pédophilie, les gens ont peur. Ça devient dans des extrêmes où les parents n'osent plus toucher aux enfants. T'sais. Si ma mère, par exemple, m'avait montré à retirer le bout, et j'aurais pas eu à me faire circoncire. Ça vient dans des extrêmes comme ça qui fait que les parents ont peur de toucher aux enfants qui eux-mêmes n'ont pas reçu d'éducation, qui eux-mêmes n'ont pas réduit.
C'est la chaîne.
Donc, ça devient un handicap à un point où quand les enfants veulent jouer au docteur, ce qui, à mon avis, est totalement normal de vouloir toucher à sa petite voisine, à sa petite sœur. Et quand les parents interviennent, c'est sale. Non, fais pas ça, c'est pas bon. Mais pourquoi? Pourquoi c'est pas bon? Et ça, je crois
que
ça...
C'est là que ça devient sale.
Oui.
C'est là que ça devient
et
sale.
Et ça reste dans ta tête. Et puis, oui. C'est ça, en vieillissant, tu te dis, bon, c'est sale. Et c'est là que je crois que les gens développent des maladies transmissibles. D'accord?
Oui.
À cause que dès l'enfance, on leur a dit que c'était sale. Et ça reste. Et c'est ça. Pour moi, la saleté, c'est ça. C'est cette programmation qu'on met dans la tête des enfants, que c'est sale, la sexualité. Au lieu de leur dire, c'est bon. Faites-le bien, les enfants. Si on leur enseignait à le faire bien entre eux et à se toucher.
Et il faudrait surtout préciser, consommer de la sexualité, c'est mal. Ou c'est pas bon, ou c'est préjudiciable. Après, tu tournes la formule comme tu veux. Consommer. Mais comme on n'insiste généralement pas, on va dire, on va prendre tout le bébé et l'eau du bain en disant, c'est sale. Mais on n'a pas précisé que dans quel contexte ça peut être profitable, mais bénéfique ou pas. C'est sûr que si c'est dans un contexte de marchandisation, c'est dégueu.
C'est clair. C'est un sujet très, très sensible aujourd'hui.
Mais c'est ça. Et puis, comme on a tellement perverti les choses, et là, c'est la véritable perversion, c'est-à-dire qu'on a associé, on a associé l'amour, le sexe et puis la consommation, tout ça, et puis on t'a fait une grosse boule là, et puis tiens, c'est un package, et puis après, quand tu arrives dans notre civilisation, c'est démerde-toi avec ça, quoi. Donc c'est sûr, ça laisse peu pour les enfants. De moyens de prendre du recul, de réfléchir, et puis surtout de s'approprier leur corps, de s'approprier leur corps. Le corps, il est exhibé partout, sur les affiches, tout ça. Mais par contre, la symbolique, le divin dans le corps, dans l'humain, tout ça, c'est complètement occulté. Et c'est ce qui fait qu'après, tout devient sale, et puis après, il y a une espèce de discours, le sexe, le machin, le truc, et puis à côté de ça...
Mais si le parent ne peut pas enseigner, ou a peur d'enseigner, ou il est incapable d'enseigner à son enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? Il n'y avait pas l'Internet quand j'étais jeune, mais c'était des revues de cul ou des films de cul. Mais dans ces choses-là, le sexe est très objetisé. Ça n'a rien à voir avec la sexualité réelle.
C'est
qu'il y a de l'amour, de l'attention. Et c'est ça le problème. Les enfants aujourd'hui, avec l'Internet, c'est encore plus facile. Si les parents ne les enseignent pas, ils vont aller de toute façon chercher l'information. Mais ça ne sera pas de la belle information nécessairement.
C'est très inoffensif, on croit, mais c'est les sources, comme je pourrais dire, les petites pattes du monstre, les influences musicales, Starlet et tout, compagnie, parce que ils vont faire des actes, ils vont penser, ils vont dire des choses, ils vont même créer des chansons, produire des chansons, qui vont faire en sorte qu'il faut agir ainsi, puis il faut... Puis les adolescents, c'est un peu comme les enfants, ils veulent...
Mais c'est du brainwashing complet, hein, total.
Ouais.
C'est du, décryptes beaucoup de clips musicaux, tu retrouves les mêmes symboles dessus, tu retrouves la même façon de déconnecter l'humain de lui-même avec plein de symboliques. Enfin, c'est vraiment assez intéressant et assez inquiétant de voir comment ces clips qui sont destinés aux adolescents ou aux enfants pré-ados, comment par la mode, la musique, tout ça, c'est vraiment, oui, on arrive à quelque chose de franchement dégueulasse dans les intentions. Dans les intentions de ceux qui font très consciemment ce genre de choses-là. Les couleurs, les symboles, les objets ne sont pas choisis au hasard.
Mais
alors, j'en viendrai pour finir avec ce que tu avais évoqué et que je trouve quand même pas mal, même si on est dans la protection spirituelle.
Oui.
Et c'est vrai que même si l'aspect protection c'est pas ce que l'on veut véhiculer là, dans l'émission, mais la protection spirituelle, même vis-à-vis de la spiritualité, ça prend de la vigilance par rapport à tout ce qui est raconté, à tout ce que l'on peut trouver sur le net ou sur les bouquins ou autre. Ça prend vraiment de la vigilance et de l'attention. Et ça prend aussi cette connexion avec le cœur pour identifier « Ah, ça me fait du sens pour moi, ça c'est bon, ça c'est pas bon. » Mais ça prend aussi cette connexion avec soi, avec son cœur, parce qu'à côté, on n'a pas toujours l'information Approprié pour se faire son propre, enfin je veux dire de façon concrète et objective, de se faire son propre avis. Donc je voulais rebondir sur ce que tu avais évoqué par rapport à ça, parce que ça me semble aussi essentiel d'avoir cette, entre guillemets, cette protection, ou en tout cas cette vigilance.
Bref, chers auditeurs, cette semaine, essayez de jouir
Oui. Le
plus possible. Si vous n'avez pas de partenaire dans votre vie, mais jouissez des petits détails, des choses que vous aimez. Et puis, je crois que ça va amener des partenaires dans votre vie.
Oui.
C'est une métaphore. Puis, on vous laisse sur une chanson de Vali qui s'appelle « Moi ». Moi. M-M-U-A-H. Comme un bec. Et puis, on vous invite à venir écouter l'émission sur notre site internet, propossurlebonheur.com, ou en podcast sur Radio H2O. Alors, bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Bye.
G Fresh B.
Valley.
Could I blow her a kiss?
Why?
Blow her a kiss.
Why?
Because she wants you to give blow her a kiss.